Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? En général, on dit je suis très content d'être parmi vous ce matin et de pouvoir partager la parole. Je ne vais pas dire ça ce matin. Je suis très content d'être votre cobaye et de tester votre nouveau matériel. J'espère que vous m'entendez bien. Il y a eu une étude attentive de mon oreille à l'entrée tout à l'heure. Et même, on m'a fait des remarques sur la taille de mon lobe d'oreille. C'est incroyable. Donc, j'espère que ces nouveaux achats seront très profitables pour l'Église, et en tout cas, qui seront très, très pratiques. On peut donc se passer de ces micros, si j'ai bien compris. Voilà, ah, c'est la liberté, c'est chouette. Et même, je peux voir, ah, c'est génial. Vraiment, le PE d'Antibes s'équipe. Moi, j'ai beaucoup apprécié aussi de travailler avec les anciens. Je travaille avec eux depuis 2 ans, comme vous le savez. On a eu cette démarche en tant qu'Église. Vous avez eu cette démarche en tant qu'Église. Et je peux dire aussi que moi aussi, j'ai beaucoup de joie à travailler avec eux. Franchement, ce n'est pas pour vous dire, mais à l'EPE d'Antibes, vous avez une équipe d'anciens formidable. C'est des gens de vision, c'est des gens qui vont de l'avant. Et c'est des gens aussi qui ne comptent pas leurs heures avec le boulot qu'ils ont. Alors, je ne veux pas leur. Ils ne savaient pas que j'allais dire ça, mais je le dis quand même, voilà. Parce que c'est bien aussi, dans les responsables, quand ils font des erreurs, on les pointe toujours du doigt. Mais c'est bien aussi de remarquer tout ce qu'ils font de bien. Et c'est une grâce pour l'Église d'avoir un collège d'anciens comme ça. Je suis reconnaissant alors donc de pouvoir partager avec vous cette partie de la lettre aux Hébreux que vous êtes en train d'étudier en ce moment. Et juste donc c'est Hébreux chapitre 6 versets 13 à 20, c'est le passage suivant. Et juste avant, je vais faire un petit rappel de ce que notre frère Yota a dit la semaine dernière. Il avait un passage difficile. Très difficile. Et donc, pour aller plus loin, avant d'aller plus loin, il a rappelé que quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit, il écrit à des gens qui se croient tous, parce qu'ils sont hébreux, ils se croient tous le peuple élu, sauvé, etc. Et il leur fait remarquer, non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. En fait, il faut passer par la croix. Ouais, mais écoute, nous, on a Abraham, on a plein de choses, et puis on a Dieu qui nous a parlé plein de fois. Et c'est vrai, hein, on ne peut pas dire ça aux Hébreux, c'est vrai que Dieu a abondamment parlé à Israël, on est bien d'accord. Mais il leur dit, non, non, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. En fait, ce qui s'est passé, et j'aime bien ce petit plan qu'on donne souvent, tu sais, au CFB, aux gens qui étudient leurs témoignages, c'est un petit schéma, hein, mais ça rappelle juste ce qui a été dit la semaine dernière pour passer au passage de ce matin. Il y a des, voilà, cette flèche que vous voyez, elle représente un peu le cours de la vie. Et puis, à un moment donné, ben, Dieu éclaire la personne. Hein? Il vient éclairer la personne. Alors, je vais symboliser ça par une merveilleuse ampoule. Et en fait, quand Dieu éclaire la personne, il peut l'éclairer de différentes façons. Le Saint-Esprit peut te parler. Tu peux avoir même une vision, un rêve. Ça peut être quelqu'un qui te parle, une prédication que tu entends, quelque chose, tu tombes sur Internet. Vraiment, tu es impacté. Tu vois que Dieu t'a parlé. OK? Et ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, ben, dit oui, ça c'est sûr, hein, il faut que Dieu nous éclaire pour qu'on puisse prendre des décisions. Mais la véritable chose qui va se passer dans notre vie, là c'est symbolisé par la croix, je ne sais pas si vous la voyez, elle est en rouge, cette croix-là, c'est le symbole de la conversion. D'accord? Être éclairé, c'est quelque chose, c'est une étape. Mais ensuite vient la conversion. Et la conversion, c'est quoi? C'est quand on reconnaît que Jésus est le Seigneur et qu'il est vraiment ressuscité, qu'il est vivant. Et que ben, devant cette majesté, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne notre vie. Il y a quelque chose qui change. On est différent. C'est plus pareil. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, ben, on est habité par le Saint-Esprit et qu'on commence une nouvelle vie. Alors, je l'ai symbolisé par une croix, par une flèche, pardon, qui monte vers le haut. On a d'autres objectifs. Voyez? Voyez? Et donc, ce que, en fait, Yota nous a rappelé la dernière fois, c'est que ben, les gens qui se sont arrêtés juste à l'ampoule, ben, ils ne sont pas sauvés, ils sont juste éclairés. Et qu'il faut aller jusqu'à la conversion. Donc si Dieu t'a parlé et que Jésus n'est pas encore ton sauveur et ton Seigneur, eh bien, l'œuvre de Dieu n'est pas encore accomplie en toi. Et en tant que prédicateur, j'ai le devoir de te dire ce matin, donne-toi au Seigneur. Si le Seigneur t'a parlé, et si tu sais que Jésus est vivant, mais qu'est-ce que tu attends? Il est le Seigneur, il est le Maître. N'attends pas le dernier moment. Donne-toi au Seigneur maintenant, ici et maintenant. Je vais prier. Seigneur, s'il y a dans cette salle des personnes qui se sont arrêtées à cette ampoule, un homme ou une femme, je te prie que dans ta grâce, tu donnes à cette personne aujourd'hui la force de se repentir et de croire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et donc, le message de ce matin s'adresse à ceux et à celles qui sont allés jusqu'à la croix, vous comprenez ? Parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, après avoir donné ce message qui est tellement solennel et qui peut tous nous faire réfléchir, mais suis-je vraiment chrétien ? Et il dit ensuite à ceux qui se sont convertis, maintenant, je me retourne vers vous et je recommence à vous parler, à vous qui avez accepté Jésus comme votre maître et Seigneur, ce passage vous concerne. Et ce passage, maintenant qu'on va lire, s'adresse aux disciples de Jésus-Christ. Et donc, on va le lire. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui, il a juré par lui-même en disant « Certainement, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. » C'est ainsi qu'après une attente patiente, Abraham a obtenu ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par plus grand qu'eux et le serment est une garantie qui met fin à toute contestation. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer plus clairement encore aux héritiers de la promesse le caractère irrévocable de sa décision, est intervenu par un serment. Ainsi, par deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous sommes puissamment encouragés, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre, solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile, où Jésus, établi grand prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek, est entré pour nous en précurseur. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu, que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs ce matin. Ce passage sert vraiment de trait d'union entre ce qui a été dit la semaine dernière et ce qui va être dit la semaine prochaine. La semaine prochaine, la personne qui sera ici aura la responsabilité d'expliquer l'ordre de Melchisédek. Et là, c'est juste une introduction. Moi, je ne vais pas y toucher. Par contre, ce que je vois dans ce passage, c'est qu'il y a deux choses que apparemment l'auteur nous dit. Il nous parle de deux choses. Il nous parle d'Abraham et puis il nous parle de nous. D'accord ? Voilà deux points. Et puis, il nous parle de notre espérance. C'est la manière qu'il a choisi de nous parler de notre espérance. Une espérance qui est sûre et qui est solide et qui est symbolisée par le symbole de l'ancre. Alors, est-ce que la personne qui a écrit a été marin à un moment donné ? On ne sait pas. Il a peut-être eu une expérience avec les bateaux. En tout cas, il parle de l'ancre. Et vous savez, une ancre, ce que c'est ? Quand vous êtes sur un bateau, vous jetez l'ancre. L'ancre, elle va se fixer dans les fonds sous-marins. Vous ne la voyez pas, mais il peut y avoir de la tempête. Le bateau, il peut bouger. Il n'ira pas plus loin qu'un certain périmètre parce qu'il est bien fermement rattaché avec cette ancre. Et l'auteur, il va maintenant comparer notre espérance avec l'ancre. Il va nous parler de choses qu'on ne voit pas encore, comme l'ancre, on ne la voit pas. Et pourtant, c'est ça qui va tenir notre vie. Vous voyez, c'est un super beau symbole. Il parlait aux Hébreux, il fallait parler par image. Mais vous voyez, l'espérance, l'ancre, qui va de l'autre côté du voile et qui est reliée à la résurrection de Jésus-Christ. Et pour cela, il va employer deux choses. Il va nous parler d'Abraham et puis ensuite, il va nous parler de nous. Alors Abraham, pour le peuple hébreu, bien connu. Pour nous, au XXIe siècle, Abraham, bon, c'est quelqu'un qui est respecté par la religion judaïque, par le christianisme et par l'islam. Tout le monde le reconnaît comme le père des croyants. Je ne sais pas si vous avez lu sa vie. C'est extraordinaire. Hein, quelqu'un qui quitte absolument tout sur l'ordre de Dieu pour aller vers un pays qu'il ne connaît même pas et où Dieu lui a dit, ben voilà, ça sera ton pays, ta descendance, etc. Et de ta descendance viendra le Messie. Hein, il a compris ça, la graine qui viendra nous sauver dans la descendance d'Abraham. Abraham quitte tout, il était un chef d'entreprise qui avait beaucoup, beaucoup d'argent, il quitte tout pour aller dans un pays qu'il ne connaît absolument pas, sur l'ordre de Dieu. Et voilà, on peut dire le film commence là, il faut lire la vie d'Abraham. Et à un moment donné, eh bien, Abraham va vivre quelque chose d'extraordinaire. Il va enfin avoir un enfant d'une femme stérile. Après des années et des années, à l'âge de 100 ans, il va avoir cet enfant alors que ce n'est plus possible. Dieu va faire un miracle et Isaac va naître. Isaac va grandir, il va devenir un beau jeune homme. Et là, Dieu va lui donner un jour un ordre terrible. Il va lui dire, sacrifie ton fils. Et là, quand tu lis ça, tu dis, non, c'est pas possible. Dieu, il ne peut pas demander ça. peut pas demander un sacrifice humain. Et effectivement, dans la Bible, tu verras que les sacrifices humains sont complètement défendus. Et que lors du sacrifice d'Isaac, pas une goutte de sang humain ne va couler. Mais Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. Et moi, ça m'a complètement scotché. Je veux dire, mais comment est-ce que Abraham, si j'avais été à sa place, vous n'êtes pas comme moi, vous ne réfléchissez pas comme ça, ah, si j'avais été à la place d'Abraham, on a eu 4 enfants, t'imagines, tu aimes tes enfants, bah, c'est pas possible. En plus, le fils de la promesse, quoi. Eh bien, c'est exactement cet exemple-là que l'auteur va prendre pour nous parler de l'espérance. Vous voyez, j'ai refait le film d'Abraham en quelques secondes. Il faut lire l'histoire. Alors, lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui, il a juré par lui-même en disant certainement, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. Quand Dieu dit ça à Abraham, c'est juste après le sacrifice d'Isaac. D'accord ? Le sacrifice n'a pas eu lieu. Au moment où le couteau allait s'abattre, Dieu a arrêté le bras d'Abraham. Un ange lui a dit, arrête. Et à ce moment-là, Dieu prend la parole et lui dit ça. Certainement, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. C'est ainsi qu'après une attente patiente, Abraham a obtenu ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toute contestation. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer plus clairement encore aux héritiers de la promesse le caractère irrévocable de sa décision, est intervenu par un serment. Premier point, l'exemple d'Abraham. Pourquoi est-ce qu'il nous parle de ça? Il nous dit, Dieu ne peut pas mentir, et il a juré par lui-même. C'est vrai que quand normalement tu jures, en général tu prends une autorité supérieure, et dans l'ancien temps, Abraham il a vécu au début du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Dans l'ancien temps, quand on donnait un serment, on jurait par l'autorité suprême, quand c'était un serment solennel. Ben, Dieu ne peut pas jurer par l'autorité suprême, puisqu'il est l'autorité suprême. Donc il a juré par lui-même. Donc tu imagines un peu la solennité de ce serment. Certainement, je te comblerai de bénédictions. Et ça donc nous ramène à cette expérience d'Abraham au mont Morija, lors du sacrifice d'Isaac, quand Dieu lui a dit « Va, prends ton fils et sacrifie-le ». Moi, à chaque fois que j'ai lu ce passage, j'ai eu la pétoche. Je me suis dit « Ah, t'imagines un peu si Dieu te demandait ça ?» Ça fait peur, hein ? Et puis je me suis dit « Non, certainement, je dois mal le lire. Je suis sûr que je lis à l'envers. » Si quand tu lis un passage biblique, il engendre un tel stress en toi, c'est quelque chose que tu n'as pas compris. Parce que Dieu, il ne veut pas écrire les trucs pour nous stresser, quoi. Il nous enseigne. Et quand je lis la vie d'Abraham, la manière dont il a vécu cette expérience, je lis tout sauf du stress. Je lis un gars qui se lève de bon matin, qui arrange le bois, qui va avec son fils. Tout se passe paisiblement. C'est pas croyable. Mais là, la sérénité de cet homme, moi j'aurais été complètement... Il n'en parle même pas à sa femme, peut-être que c'était mieux. Je ne sais pas ce que Sarah aurait dit. C'est fou, quoi. Et puis il s'en va, et il marche tranquillement, et puis quand ils échangent avec... Et puis tout se passe avec une... Mais c'est tellement paisible, alors que l'intensité dramatique est au maximum. Moi je mettrais une musique dramatique avec un gars qui est absolument serein. Vous voyez le contraste? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Abraham? Pourquoi est-ce que Dieu a fait passer Abraham par là? Et quel est le rapport avec nous? Quel est le rapport avec l'Église? Alors, le premier rapport, il y a deux paroles dans le mont Morija qui rattachent, je vais dire, le sacrifice d'Abraham, le sacrifice d'Isaac, pardon, avec l'Église. La première parole, c'est celle-ci. Alors, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. Voyez la scène? Il vient d'arriver au pied de la colline où il doit sacrifier son fils. Il dit au serviteur, restez ici avec l'âne, restez là avec la voiture qui tourne encore. Et puis, nous, on va revenir. Donc, comment? Et il dit nous. Il ne dit pas, je vais revenir, alors qu'il va sacrifier son fils. Nous allons revenir. Donc, première chose d'ici, Abraham ne doute pas qu'il va revenir avec Isaac. Par A ou par B, puisque Isaac est le fils de la promesse, Isaac ne peut donc pas mourir, et combien même je le sacrifierai, et c'est là la foi d'Abraham, combien même je le sacrifierai, je reviendrai avec lui. Donc il n'y a pas d'autre solution. Si je le sacrifie et que je reviens avec lui, je crois en la résurrection. Je crois que Dieu ne peut pas revenir sur sa promesse, puisque c'est le fils de la promesse, et donc s'il me demande de sacrifier Isaac, Logiquement, Aaron, tu as dit tout à l'heure, tu as un esprit logique. Il avait un esprit logique aussi, Abraham. Logiquement, logiquement, Isaac, quand bien même il devrait mourir, ressusciterait. Et ça, c'est entériné par l'auteur même de l'Épître aux Hébreux, que Abraham a eu sur le mont Morija la foi en la résurrection. Regardez ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit. Dieu, estimait-il, est assez puissant pour ressusciter un mort, et son fils lui a été rendu, c'est une préfiguration. Donc l'auteur même de l'Épître aux Hébreux entérine cela. Abraham avait la foi en la résurrection, c'est ce qui lui a permis de vivre cette expérience avec une paix qui surpasse toute intelligence. Première parole, nous reviendrons avec l'enfant. Nous reviendrons vers vous. Foi en la résurrection. Deuxième parole d'Abraham sur le mont Morija, qui rattache cette expérience à l'Église, elle est là. Isaac s'adressa à son père Abraham lorsqu'ils montent ensemble vers le lieu du sacrifice et lui dit, mon père, Abraham dit, qu'y a-t-il, mon fils? Voici le feu et le bois, dit-il. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Lui aussi, il était logique. Hein? Il manque quelque chose, il manque même le principal, papa. Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Et ils poursuivirent. Vous voyez encore la foi d'Abraham ici? Il monte et il a la foi qu'il va y avoir un sacrifice parce que Dieu lui a demandé qu'il y aurait un sacrifice. Il n'a pas pris d'agneau puisque c'est Isaac l'agneau. Mais Isaac, s'il ne devait pas être sacrifié, il y aurait certainement un agneau qui le remplacerait. Et là, quelque part, on a la foi en la substitution. Alors le terme substitution, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand quelqu'un prend la place de quelqu'un d'autre, quand il se substitue à quelqu'un d'autre. Vous voyez? Il avait la foi en la substitution. Il avait la foi qu'il y aurait un sacrifice de substitution pour Isaac. Incroyable! Parce que la foi en la résurrection et la foi en la substitution, mais c'est l'évangile. C'est l'évangile avant l'heure. Nous croyons que Christ, sur la croix, est l'agneau de Dieu qui a pris notre place. La foi chrétienne, c'est la foi en la substitution. Il a pris notre place. Il est mort à notre place pour nos péchés. Il s'est substitué à nous devant la justice divine. Le croyons-nous? Si oui, on est arrivé sur l'itinéraire à la croix. Deuxième question. Croyons-nous que Jésus est ressuscité d'entre les morts? Car Jésus, c'est le fils de la promesse, bien plus que Isaac. Il est celui qui doit hériter de toute la terre. Il ne peut pas mourir, quand bien même il devrait mourir. Et dans le cas de Jésus, la mort est intervenue, et la mort violente, le sang a coulé. On est rappelé ce matin. Quand bien même le fils devrait mourir, comme il meurt pour le péché des autres et non pas pour son propre péché, logiquement, il doit vivre. Et dans le cas de Jésus, comme il y a eu mort, il y a eu résurrection. Comprenez? Crois-tu que Jésus est ressuscité? Pour nous, c'est la résurrection, c'est quelque chose d'un petit peu extraordinaire. Pour Dieu, c'est la logique même. Voilà quelqu'un qui est le fils de la promesse, qui doit hériter l'univers et qu'on met à mort. Donc Dieu ne va pas revenir sur sa parole. Jésus doit ressusciter. Et Dieu ressuscite Jésus. 3 jours plus tard, Jésus sort du tombeau et va dans la présence de Dieu. Il entre comme prêtre selon l'ordre de Melchisédek, où il nous représente. C'est le prédicateur suivant qui parlera de ces choses. Croyons-nous donc en la substitution et en la résurrection? Si oui, nous sommes arrivés à la croix. Donc Abraham a vécu l'évangile avant nous, 2000 ans avant le Christ, 4000 ans avant nous. Vous imaginez? C'est la raison pour laquelle l'auteur de l'Épître aux Hébreux prend le cas d'Abraham, notre foi, qui est la substitution, Christ est mort pour nos péchés, et la résurrection, Christ, le Seigneur, est ressuscité, et il fait le lien. Mais nous avons le même genre de foi qu'Abraham si nous croyons que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés et qu'il est ressuscité. Vous voyez comment on peut lire l'épisode de Morija? Moi, tellement de fois, je l'ai lu comme oh, un jour, Dieu va me demander un truc terrible comme ça, mais j'y étais pas du tout. Dieu était en train de me montrer l'évangile avant l'heure. Et Dieu était en train de me dire, tu as une foi de la même nature que ton ancêtre Abraham. C'est ça, c'est un formidable encouragement pour nous. Et donc, l'épisode de Morija est relié à l'épisode de l'Église. Premier point. Deuxième point, donc, il relie maintenant cette expérience à l'Église et il parle de nous et il parle de notre expérience, de notre espérance. Et il dit, puisque nous avons cette même foi et puisque Dieu ne peut pas revenir sur sa parole, il nous a fait des promesses. Et ces promesses, c'est une espérance qui est sûre et solide. Alors, peut-être c'est des promesses que vous avez déjà entendues. C'est une piqûre de rappel pour certains. Pour d'autres, c'est peut-être une découverte. Mais Dieu veut qu'on se souvienne et qu'on se souvienne et qu'on se souvienne encore de ses promesses. Parce que vous et moi, en tout cas moi, j'ai une fâcheuse tendance à douter des promesses de Dieu dès qu'il m'arrive un petit problème. Et Dieu répète, et répète encore dans ma vie, les promesses qu'il a faites, en me rappelant que comme c'est lui qui a fait les promesses, il ne peut pas revenir sur sa parole. Et ça fait du bien, parce que ses promesses sont bonnes. Ainsi, par deux actes irrévocables dans lesquels il était impossible que Dieu mente, nous sommes puissamment encouragés, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile, là où Jésus, établi grand prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek, est entré pour nous en précurseur. Quelques éléments des promesses de Dieu que je rappelle ce matin et qui appartiennent à celles et ceux qui sont passés par le petit schéma de la croix sur mon petit schéma, la conversion. D'accord ? Et vous avez vu, après la conversion, il y a une ligne qui monte vers le haut, la vie change après la conversion. Elle change pourquoi ? Parce que Dieu nous a fait des promesses et ces promesses sont pour le ici et maintenant et en même temps pour quelque chose qui doit arriver. C'est-à-dire que c'est comme un acompte de quelque chose qui doit arriver plus tard. Vous voyez ? Alors, on commence par la colonne qui est à votre gauche, sur les choses qui nous sont déjà arrivées, qui sont déjà, qui font partie des choses que Dieu nous donne déjà dans le ici et maintenant à Antibes en décembre 2025. La justification. Dieu nous a déclaré juste lorsque nous sommes devenus chrétiens. La liberté. Dieu nous donne la liberté. La liberté, c'est quoi ? C'est la liberté vis-à-vis du péché, j'en parlerai. Il nous donne l'adoption. Nous sommes déclarés fils de Dieu, fils ou fille de Dieu, par adoption. La résurrection spirituelle. Et aussi, nous sommes délivrés de la puissance du péché. Et puis, vous avez cette encre. Vous voyez, ce sont les choses à venir. C'est-à-dire que si vous avez déjà reçu ces choses-là, voilà les choses à venir. Un jour, le salut sera rendu possible parce que vous ne serez pas uniquement déclaré juste, vous serez rendu juste. Un jour, non seulement vous aurez la liberté, mais vous aurez aussi le shalom avec toute la création. L'adoption, pour le moment, vous êtes déclaré enfant de Dieu. Un jour, vous entrerez dans votre héritage. Aujourd'hui, votre résurrection est spirituelle. Un jour, elle sera physique. Vous avez été déclaré, vous avez été aujourd'hui délivré de la puissance du péché. Un jour, vous serez délivré de la présence du péché. Votre espérance est sûre et solide. Si vous avez ces choses ici et maintenant, ça veut dire que c'est un acompte pour ce qui vous attend de l'autre côté du voile. La justification, on en parle. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été déclarés justes. Un autre passage dit, tous sont péchés, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu et ils seront déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Vous voyez ? Ça, c'est une déclaration juridique. Nous avons été déclarés justes devant Dieu. Mais un jour, nous serons rendus justes. Et au retour du Seigneur, voyez, toutes ces promesses dans la colonne de gauche, elles concernent la première venue de Christ. Les promesses dans la deuxième colonne concernent la deuxième venue de Christ. N'oublions pas que le Seigneur doit revenir. Et lors de son retour, cette justification sera rendue effective et ils s'en iront. Quand Jésus parle de la venue du Fils de l'homme, il parle de ce partage qu'il va faire dans l'humanité et ils s'en iront au châtiment éternel, tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. Vous voyez, le statut de justification à ce moment-là sera rendu effectif et les justes seront ceux qui rentreront dans la vie éternelle, ceux qui participeront au royaume de Dieu. Donc, ce qui est aujourd'hui une déclaration juridique deviendra un jour un statut, quelque chose de. On rentrera en puissance. Il y a le fait et il y a la puissance. On rentrera en puissance dans notre justification. Nous ne serons pas uniquement déclarés justes, mais rendus justes. La liberté. Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. Que nous dit ici la parole? Elle nous dit que celles et ceux qui sont à Christ ont la liberté. La liberté, c'est quoi? Il parle ici de la liberté par rapport au péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on a la liberté de pécher? Non. Il nous dit, avant le péché, c'était comme quelque chose qui nous dominait. On ne pouvait rien faire contre. N'essaye même pas. Aujourd'hui, vous avez reçu une puissance qui vous permet de lutter contre le péché. Vous êtes délivré de la puissance du péché. Le péché n'est plus votre maître. Vous avez un nouveau maître qui vous a rendu libre. Vous pouvez vivre une vie où vous pouvez éviter le péché, même si vous ne serez jamais parfait, puisque la perfection sera au deuxième retour du Christ. Vous pouvez aujourd'hui considérer le péché comme quelque chose de vaincu dans votre vie. C'est ça la vraie liberté chrétienne. Une liberté que l'on doit saisir dans le quotidien et que l'on doit saisir d'autant plus quand on souffre de péchés graves, de péchés tenaces, comme les addictions ou les péchés récurrents. À un moment donné ou à un autre, le Saint-Esprit nous rappelle que nous avons reçu une puissance supérieure. Et alors, quand on fait un pas dans ce domaine-là, waouh, la victoire. N'est-ce pas? Ce sont des choses qu'on vit déjà maintenant, non? Ça fait partie de l'expérience de l'Église. Mais le Seigneur nous dit qu'au deuxième retour, c'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de la corruption qui l'a servie pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Un jour, le péché disparaîtra. Nous allons vivre un jour dans un monde où le péché, nous n'aurons plus à lutter contre lui, parce que nous serons délivrés non pas seulement de sa puissance, mais de sa présence. Est-ce que vous arrivez à comprendre un monde comme ça? Moi, j'ai de la peine à comprendre un monde comme ça. Un monde sans péché. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Un Philippe sans péché. Encore plus incroyable. Mais ça sera quelque chose qui appartient aux enfants de Dieu au deuxième retour. Nous serons enfin libres vis-à-vis du péché complètement. Cette espérance, elle est sûre, elle est solide parce que Jésus est ressuscité. L'adoption. Dans le temps présent, nous avons reçu l'adoption. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non. Vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. C'est par cet Esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Avez-vous reçu cet Esprit d'adoption à la conversion? Est-ce que vous considérez Dieu comme votre Père? Est-ce que vous avez la conviction que Dieu est votre Père? Vous savez ce que veut dire le Père? C'est la source. C'est de lui que viennent toutes choses. Est-ce que vous savez que vous venez de Dieu? Qu'il est votre source? Qu'il est votre autorité suprême? Que vous pouvez lui parler et que cette autorité suprême est bienveillante vis-à-vis de vous. C'est ça, le Père. Est-ce que l'Esprit qui est en vous vous pousse quelquefois dans votre vie à vous adresser à Dieu et à lui dire Père? Vous le vivez maintenant, ici et maintenant? Eh bien, si vous le vivez ici et maintenant, c'est une assurance que quelque chose de plus vous attend lors de cette deuxième venue du Seigneur. Elle n'est pas seule à gémir, cette création, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptif de Dieu quand notre corps sera délivré. Il se trouve que la création elle-même attend la résurrection de ceux qui appartiennent à Dieu pour être délivrés du péché. Et si vous ressentez cette espèce de tension dans votre cœur, tu vois, certains l'appellent le blues, la tension, cette espèce de nostalgie du futur. C'est drôle à dire, la nostalgie du futur. Eh bien, c'est un petit peu ça. Si vous ressentez ça, bienvenue au club. Je crois que tous ceux qui appartiennent à Dieu ressentent cette nostalgie du futur. Comme j'ai tellement envie que ça soit là, et c'est toujours pas là. Mais un jour, ça sera là, mais pour le moment, c'est pas là. Tu vois cette tension dans le cœur? Ben, elle fait partie de la tension des enfants de Dieu. Parce que tu sais qu'un jour, ça va arriver et que c'est pas encore là. Si tu le ressens, bienvenue au club, tu fais partie de la maison, tu fais partie de l'Église. Tu es passé par la croix. Un jour, La création entière sera libre. Elle bénéficiera du shalom de Dieu, de la paix de Dieu, avec une humanité rachetée. Ça sera chouette, n'est-ce pas? Ça sera chouette de se revoir dans ce domaine-là et dans ce contexte-là. Ça sera chouette. Un jour, on se reverra comme ça. C'est notre espérance, elle est sûre et solide. Pourquoi? Pas parce que c'est un beau rêve, pas parce que ça. Ah, c'est bien. Non, parce que Jésus est ressuscité. Il est de l'autre côté du voile. C'est fait. Quand il sort du voile, voilà, c'est dévoilé. Dévoilé, c'est quoi? L'Apocalypse, le dévoilement. Vous voyez? Il y a juste un pas à lui pour faire. Il fait un pas et tout. Et voilà, la colonne de droite, elle s'accomplit. Juste un pas du Christ. Au moment où le Père lui dit, vas-y. Ça peut arriver n'importe quand. Un petit pas pour le Seigneur, un grand pas pour l'humanité. La résurrection, c'est pareil. Mais vous aussi, vous êtes aussi ressuscité avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où le Christ, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. C'est drôle de dire ça, vous êtes ressuscité. Tu vois? Il faut pas le prendre à l'envers, ce truc. Ça veut dire qu'on est ressuscité intérieurement. C'est la résurrection que nous donne le Saint-Esprit. Vous avez remarqué quand on a reçu le Saint-Esprit, il s'est passé quelque chose avec notre conscience. Moi, je suis Marseillais. Ma conscience, je lui ai fait dire un peu ce que je voulais. Hein. Tu vois? Bon, ça, c'est pas vraiment du vol, ça, c'est pas. Tu vois, genre, tu négocies avec ta conscience quand même un peu. Et ta conscience, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait comme un petit toutou. À un moment donné, bon, bah, c'est pas vraiment du vol, tu vois? Elle t'obéit un peu, la conscience. Il y a des gens qui vont beaucoup plus loin que ça et qui n'ont plus du tout de conscience. Tuer quelqu'un, pas grave. Tu vois, la conscience, on peut la transformer. Moi, quand j'ai reçu le Seigneur, à l'âge de 23 ans, waouh, j'ai redécouvert ma conscience. Elle était redevenue un peu sensible, quoi. Le Saint-Esprit l'avait un peu ressuscité, quoi. Elle reprenait vie, elle reprenait sa place. Et des fois, elle me disait des choses que je n'aimais pas trop entendre. Mais là, parce qu'à cause de la puissance qui parlait derrière, j'écoutais. Et ça fait du bien, des fois, d'écouter les remarques de Dieu pour réformer ses voies et vivre droitement, n'est-ce pas? Donc, si tu vis ces choses-là, si tu vis ces choses-là, ça veut dire que tu appartiens à Dieu. Aujourd'hui, on prêche beaucoup, pas de culpabilité. Ouais, mais il y a une bonne culpabilité, les amis. Quand Dieu me reprend, quand mon père me reprend, si je dis je m'en fiche, c'est pas. Non, je me sens coupable, mais je sais qu'il m'aime toujours. Donc ça va. Mais quand même, voilà, c'est le père. Alors, on est ressuscité d'en haut. Ça veut dire aussi qu'on vit des choses merveilleuses intérieurement. On goûte déjà un avant-goût du ciel. On peut rechercher les choses de Christ. Il y a des mystères que les gens qui ont bac plus 15 ne peuvent pas comprendre s'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et que toi, eh ben tu connais parce que tu as le Saint-Esprit. Tu as accès, une sœur tout à l'heure priait, accès au trône de la grâce. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est extraordinaire. Tu as accès à Dieu, quoi. Mais oui, tu as accès à Dieu. Elle a raison, la sœur. Tu peux parler au Seigneur et il peut te parler aussi. Tu as accès aux choses du ciel, ici et maintenant. Tu es ressuscité intérieurement. Mais c'est que le début. Parce que, en effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remporté ô mort. Où est devenue ta victoire? Qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? La mort qui fait peur aux plus grands héros, ce jour-là n'existera plus. Plus de mort. Est-ce que tu arrives à réfléchir à un univers sans mort? Hein? Je sais pas, enfin voilà, moi des fois j'essaye d'imaginer, quoi. Mais je me dis, waouh, je suis loin du compte. Il me manque une dimension ou deux pour comprendre pleinement ce truc-là. Mais ça va, je pige l'idée générale. C'est qu'un jour, la mort sera complètement anéantie parce que nous ressusciterons. Ce corps ressuscitera. Que tu sois mort dans un crash aérien, que tu sois mort en mer, que tu sois mort, que tu sois incinéré ou enterré ou quoi que ce soit, ton corps ressuscitera parce que Dieu rappellera ton âme. Il te connaît par ton nom. Et ce qui veut dire qu'il te donnera un corps de résurrection. Voilà ce qui nous attend. La dernière scène de ta vie est une scène de victoire. Tu rentres dans Sion avec les acclamations des anges. Tu vois le trône de Dieu. Tu entends la voix de ton Père. Je te connaissais depuis la fondation du monde. Pour toi, ton espérance est sûre et solide. Des fois, le film de ta vie peut traverser des périodes un peu difficiles. Un jour, quelqu'un me donnait l'image de ce roman. Quand tu lis au milieu, le héros, il lui arrive toutes les crasses possibles et imaginables. Et tu te dis, est-ce qu'il va s'en sortir? Et je connais une personne qui, elle va lire la dernière page pour voir comment ça termine, pour voir si elle va lire le livre ou pas. Et quand elle voit qu'à la fin, le héros, il se marie, qu'il a des enfants, tout ça, alors elle revient paisiblement au milieu de son livre. Et elle... C'est un petit peu ce que l'espérance sûre et solide nous invite à faire. La dernière page de notre vie est une belle page. Tu peux revenir à la page présente si elle n'est pas tout à fait paisible et la relire différemment. Tu comprends? C'est une espérance qui est sûre et solide parce que Jésus est ressuscité. Alors, quelques éléments pratiques. Ces choses-là, tu les as certainement déjà entendues. Et tu comprends que ça fait du bien de les réentendre. Attache-toi à une église qui enseigne et qui enseigne et qui enseigne ces choses. Ne vis pas ta foi seule. Ne pense pas que parce que tu as pigé une fois, tu comprendras toujours. À la première épreuve, tu remettras l'amour de Dieu en question. Nous sommes faits comme ça. Nous avons besoin des répétitions du Seigneur. Allez, on est comme des enfants, n'est-ce pas? On est comme des enfants. Pour moi, le premier, j'ai besoin que le Père me rappelle et me rappelle encore. Deuxième chose, pratique. Si nous croyons cette deuxième colonne, vous savez, cette espérance sûre et solide, est-ce que ça a un impact sur le présent? Ça serait intéressant, n'est-ce pas, voilà, je peux vous laisser même la slide si vous voulez, parce que elle peut. C'est bien des fois de prendre un moment de méditation et de s'interroger avec la parole de Dieu. Voilà. Si cette colonne est quelque chose que nous croyons, est-ce que ça a un impact sur notre présent? Est-ce que je sais que je suis appelé à être rendu juste, à entrer dans le royaume de Dieu? Si c'est le cas, pourquoi ne pas développer la culture du royaume dès maintenant? Bien, la liberté vis-à-vis du péché, est-ce que si un jour je vais vivre dans une création où il n'y aura plus de péché, est-ce que ça ne serait pas bien que je commence à m'en passer dès maintenant? Puisque ça ne fait pas partie de mon avenir. L'adoption, si j'ai été déclaré un enfant de Dieu, est-ce que ça ne serait pas bien que j'arrête de me dénigrer ou d'avoir de moi une image peut-être qui est complètement dégradée, peut-être qu'on m'a donnée dans mon enfance ou je ne sais pas trop où. Quand, tu vois, est-ce que ça ne serait pas bien que je commence à vivre avec la dignité des héritiers et des enfants de Dieu? Je suis fils de roi quand même, tu es fille de roi. C'est pas rien. Si un jour... je suis appelé à ressusciter physiquement. Est-ce que ça ne serait pas bien que j'arrête de mettre tellement d'espoir dans les choses d'aujourd'hui? Comment est-ce que je considère mon argent, mon fric? Comment je considère ma baraque? Comment est-ce que je considère ma bagnole? Excuse-moi de parler comme ça, mais une voiture, c'est une bagnole. Une maison, c'est une baraque. Et l'argent, c'est que du papier. C'est utile pour le ici et maintenant, mais plus tard, il n'y aura plus tout ça. Alors comment est-ce que je considère ces choses d'aujourd'hui? Est-ce que je les considère comme des choses que je dois investir pour plus tard? Parce que je peux en faire aussi un usage fort intelligent pour le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Je peux avoir la voiture pour le Seigneur. Je peux avoir de l'argent pour le Seigneur. Je peux avoir une maison pour le Seigneur. Et puis, si je suis délivré de la puissance du péché aujourd'hui, et qu'un jour je sais que je serai délivré de la présence du péché, pourquoi est-ce que j'envisage pas justement des nouveaux schéma de pensée, c'est plus le péché qui domine, mais la sanctification, la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Ah, les bonnes questions qu'on commence à se poser. Un jour, un de mes fils m'a dit, tu sais, on était en train de marcher au parc, et tu sais, les questions, hein, des fois, c'est le contraire, Aaron. Hein, c'est les pères qui posent des questions aux enfants quand ils grandissent. Tu sais, quand ils deviennent plus grands, des fois, ils t'enseignent des choses. Et un jour, comme ça, je parle avec mon fils et puis et je dis, tu vois, dans l'étang qu'il y avait dans le parc, il y avait des poissons, ils étaient gros comme ça, les poissons rouges, tu sais. Et je dis, toi, t'imagines un petit peu les poissons rouges qu'il y a ici? Ouais, t'imagines, si on achetait des poissons comme ça, des poissons rouges comme ça, mais ils sont d'une autre race, les poissons, tu vois. Et mon fils, qui connaît très bien les animaux, il me dit, non, 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 c'est les mêmes poissons que tu achètes chez le vendeur de poissons rouges. Et ouais. Il me dit, ben oui, mais ils sont petits comme ça, ils sont pas gros comme ça, arrête. Tu as vu un peu la taille? ne rentrerait pas dans l'aquarium. Il me dit, justement, tu sais que le poisson, il a la capacité de gérer sa propre croissance. Alors, si tu le mets dans un certain volume d'eau, il calcule sa croissance en fonction du volume. Je me dis, mais c'est des ordinateurs, ces poissons. Donc, il pensait que, tu sais, tu as mémoire de poisson rouge, quoi. Attention, un ordinateur, il calcule son volume d'eau pour grandir le truc. Et tu dis, OK, d'accord. Alors, ça veut dire que si je le mets dans un grand volume, il m'a dit, tu as tout compris. C'est la même race de poissons, à part que là, ils sont dans un étang et ils atteignent leur taille adulte. Ils se limitent quand ils sont dans un aquarium. Je dis, wow. Ça m'a fait penser à l'espérance chrétienne. Je me suis dit, mais tu sais, quand on est limité par toutes les. La philosophie de cet âge présent, la mort, on ne grandit pas comme on devrait grandir. Mais quand on a les yeux fixés sur l'espérance sûre et solide, alors on quitte l'aquarium. On a été fait pour la grande mer, mes amis. L'ancre, c'est la grande mer. On a été fait pour l'océan. On n'a pas été fait pour un aquarium. On a été fait pour grandir, grandir et grandir encore. Voilà l'espérance sûre et solide. Dernière chose pour l'application. Je conseillerais aussi, en plus de l'attachement à une assemblée locale, de oui, voir, comprendre ces choses-là, lire, les lire et les lire encore. Je conseillerais aussi de vraiment considérer sa vie comme une vie de disciple. Est-ce que vous êtes accompagné par quelqu'un qui vous rappelle ces choses? Ça fait du bien des fois d'avoir un grand frère ou une grande sœur, sinon que tu es une femme ou un homme, qui te rappelle ces choses. Ou alors quelqu'un de taille égale au niveau spirituel, mais reste pas seul. Parce que le jour où tu seras en train de douter, c'est peut-être l'autre qui ne sera pas en train de douter et qui va te tirer vers le haut. Reste pas seul. Hein, essaye d'avoir une relation avec quelqu'un comme un disciple, comme les disciples d'avant, ils avaient des relations avec les uns avec les autres, et ils ne restaient pas seuls. Ils échangeaient ces choses-là. Et on peut des fois se dire, ben voilà, tu vois, j'ai entendu ces choses-là, le prédicateur, il a super bien parlé dimanche, mais aujourd'hui, ben, je suis en train de douter de mon salut. Et ça fait du bien d'avoir un grand frère à ce moment-là qui te dit, regarde, il est écrit que voilà, tu reviens à l'ancre sûre et solide. Et c'est comme ça qu'on avance, mais qu'on avance ensemble. Que le Seigneur bénisse ta parole.